Bien, bonsoir à chacun et chacune. Nous voici réunis pour notre avant-dernière rencontre, puisque, comme vous l'aurez retenu, il y a une rencontre de plus que ce qui est sur le petit feuillet imprimé, mais bien conformément à ce qui était prévu et à ce qui est sur le site internet. Comme c'est l'avant-dernière rencontre, certains se signalent en disant qu'ils souhaitent passer un examen. Alors je souhaiterais savoir l'ampleur du problème pour moi et que ceux qui sont concernés me le disent pour que je puisse prévoir du temps. J'espère qu'il n'y en a pas trop. Enfin, il y en a déjà trois qui se sont signalés. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui le souhaitent. La formule est au choix, soit un travail où on approfondit une question, soit un examen tout à fait classique sur le cours tel qu'il s'est déroulé, pour peu que je m'en souvienne. S'il y en a d'autres qui sont concernés, s'ils veulent me le dire, comme ça, la semaine prochaine, je pourrai proposer une date. Aujourd'hui, la séance qui nous rassemble a comme titre « L'islam en Europe et en Belgique aujourd'hui ». C'est une séance qui fera double emploi avec la session de théologie pastorale qui a été organisée au mois de février pour ceux qui l'ont suivie. Mais en même temps, c'était difficile de mettre cette dimension-là dans un parcours comme celui que nous avons fait. Donc pour ceux qui ont participé à la session de pastorale de février, ils ne trouveront rien de neuf, puisqu'il y avait même des gens beaucoup plus compétents que moi pour en parler. Sur la feuille de route, je vous montrerai que nous allons procéder en trois temps. D'abord, se remettre un peu dans une perspective historique, puis essayer de dégager quelques grands défis et perspectives pour l'islam belge et européen. Et j'ai mis dans cette leçon-ci aussi trois enjeux pastoraux particuliers qui touchent à la présence de l'islam chez nous. Comme Felice Lacetto le disait lors de la session pastorale, il faut bien prendre la mesure, quand on parle de l'arrière-fond historique, qu'il s'agit bien d'une première historique pour l'Occident d'avoir à envisager une cohabitation non violente avec l'islam. Tout au long de l'histoire, les rencontres islamo-chrétiennes ont été marquées par la violence. Et maintenant, nous avons une cohabitation dans un cadre pacifié en Europe, avec donc une nouveauté complète à la fois pour la tradition occidentale, mais une grande nouveauté aussi pour l'islam. Pour l'islam qui se trouve en situation de minorité, dans un contexte non conflictuel et dans un contexte marqué par une société sécularisée. Donc, quand on prend la mesure de l'arrière-fond historique, c'est d'abord prendre la mesure d'une nouveauté pour toutes les parties. Et ce qui est neuf veut dire que ce n'est pas toujours facile et qu'il y a à inventer et à découvrir pour tout le monde. Ça, je crois que c'est un premier élément qu'il faut bien voir. Et puis, si on rentre dans l'histoire plus concrète, pour la Belgique en tout cas, la présence musulmane est vraiment tout à fait liée à la problématique de l'immigration. C'est un peu différent pour la France, par l'Algérie. Il y avait une présence musulmane en France plus ancienne et une présence aussi d'une élite musulmane en France. Tandis que la Belgique n'a pas du tout connu cela. Donc le point de départ des pays européens, en fonction de leur histoire propre, est différent, même si aujourd'hui on peut considérer qu'avec les communications beaucoup plus globalisées que nous connaissons aujourd'hui, ces différences sont beaucoup moins marquées qu'il y a quelques dizaines d'années. Si on prend la situation belge comme point de repère, puisque nous sommes en Belgique, on parle d'une période d'une bonne cinquantaine d'années. Et ces 50 années ont bien sûr été marquées par des tensions, des difficultés, mais elles ont surtout été le témoin d'un immense travail de la société sur elle-même pour trouver des modes d'ajustement à cette réalité nouvelle, et de la communauté musulmane aussi pour trouver sa place. Le développement d'une société peut être considéré comme le processus par lequel des modes de gestion des tensions sont mis en place. Et c'est toujours un processus en construction et un processus inachevé. Mais après 50 ans, on peut considérer que l'inachèvement trouve progressivement une vitesse de croisière. Il y a des traits propres à la Belgique, mais on ne peut pas isoler non plus la Belgique du reste de l'Europe. Les musulmans entretiennent en effet des relations familiales ou entre organisations d'un pays à l'autre, et ils sont, de ce point de vue-là, de vrais Européens. L'information circule, ils savent ce qui a été accordé dans tel ou tel pays, quel mode de solution a pu être trouvé à telle problématique, peuvent pouvoir le souhaiter ou le revendiquer dans le pays où ils résident. Mais dans le même temps, il faut aussi bien prendre en compte que les traditions nationales en matière de relations entre États et religions sont très différentes d'un pays à l'autre. Si l'on reprend la Belgique et la France, les différences sont fortes, au point qu'il ne s'agit pas non plus d'un développement simplement uniforme à travers les différents pays européens. Il faut également tenir compte des relations des musulmans d'Europe avec les centres de l'islam à l'étranger. Et il ne faut pas s'imaginer que l'islam d'Europe va se couper de ses centres, même s'il se développe, pour une part, d'une façon originale et autonome. Une appartenance religieuse, quelle qu'elle soit, induit toujours des solidarités transnationales. Le développement propre de l'islam d'Europe dépendra, pour une part importante, également de la présence d'une élite intellectuelle, capable de repenser le rapport aux sources dans un contexte qui est différent, comme je le soulignais en commençant. Pour présenter le développement historique en Belgique, je me base sur les travaux de Felice d'Assetto, qui avait été invité ici lors de la session pastorale de février. Il avait publié un tout premier livre en 1984, qu'il avait intitulé « L'islam transplanté », et le plus récent, qui est paru en 2011, c'est « L'iris et le croissant, Bruxelles et l'islam au défi de la co-inclusion ». Donc à travers cette bonne trentaine d'années, ce ne sont pas simplement des travaux de recherche qui ont évolué, c'est aussi toute une réalité sociale, une réalité religieuse de l'islam en Belgique. Si l'on prend le parcours depuis l'origine, il est important, me semble-t-il, de prendre la mesure du point de départ de la présence musulmane en Belgique. Comment se fait-il que dans les années 60, les consulats belges au Maroc et puis en Turquie invitent par la diffusion d'une petite brochure à venir vivre et travailler en Belgique. La Belgique a besoin de main-d'œuvre Et il y a eu la catastrophe du bois du Cazier à Marcinelle, qui fait que la réputation de la Belgique en matière de sécurité des conditions de travail est très mauvaise en Europe. Et la Belgique n'arrive plus à trouver de main-d'œuvre dans les pays européens. Et c'est ainsi qu'elle sort des frontières des pays les plus proches, hein, pour, à travers les consulats au Maroc et dans un deuxième temps en Turquie, à venir vivre et travailler en Belgique, suivant le titre de cette petite brochure du ministère de l'Emploi et du Travail. Dans cette brochure, l'accent est mis sur l'immigration familiale pour faciliter l'intégration en Belgique. C'est un choix belge de mettre l'accent d'emblée sur l'immigration familiale pour faciliter l'intégration, disait la brochure, pour des considérations humanitaires sans doute pour une part également. Mais il faut savoir également qu'il y avait eu un rapport, le rapport Sauvy, quelques années auparavant, qui avait tiré la sonnette d'alarme sur l'évolution démographique du pays. Et donc la Belgique ne devait pas seulement faire face à un manque de main-d'œuvre pour les secteurs les moins qualifiés de son économie, mais elle devait faire face, à moyen terme, à un important déficit démographique. Donc le choix belge d'opter pour une immigration familiale est également porté par des considérations sur l'évolution démographique du pays. Cette petite brochure diffusée à l'époque par le ministère ne fait aucune allusion à l'islam. Pourtant, c'est la première fois que la Belgique organise une immigration à partir de pays musulmans. Le texte mentionne la liberté d'exercer le culte de sa religion, qui est garantie par la Constitution, mais ne fait aucune mention de l'islam. Et ce sera pourtant le point de départ d'une présence musulmane significative en Belgique. Au début des années 60, on estime la présence musulmane en Belgique à moins de 2000 personnes, principalement des personnes attachées aux représentations diplomatiques, et tandis que de la fin des années 60 au milieu des années 70, on connaît évidemment un fort développement de la population musulmane, par regroupement familial aussi, ce qui correspond aussi à un enracinement social plus accentué. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'appel que la Belgique adresse à ce moment-là est une recherche de main-d'œuvre non qualifiée. Donc ce sont des gens qui n'ont pas de qualification professionnelle particulière et qui ont dès lors aussi en général une culture générale d'un niveau bas ou moyen. Ce ne sont pas des universitaires et leur culture religieuse également est une culture plutôt populaire. Cet appel a lieu au cours des années 60, c'est fin des années 60, début des années 70 que la population musulmane par immigration de travail se développe fort en Belgique. Et en 73, nous avons le fameux choc pétrolier qui conduit les grandes industries à désengager massivement pour réduire leurs coûts. Donc, ces désengagements massifs toucheront en premier lieu ces travailleurs derniers venus. C'est dire que le marché du travail, qui pour les immigrations précédentes, que l'on prenne l'immigration italienne, espagnole ou portugaise, avait constitué un facteur d'intégration majeur dans la société, ce facteur d'intégration par le travail, la dernière vague d'immigration de travailleurs, le connaîtra très peu, puisque dès le début des années 70, on connaît le chômage massif structurel et qui touche principalement les populations les moins qualifiées sur le marché du travail. Donc c'est une caractéristique propre de ce premier groupe et qui conduira également, mais à donner un nouveau statut à l'appartenance religieuse. Parce que au moment où en particulier les pères de famille perdent aux yeux de leur famille, de leur entourage, leur statut de travailleur, que bien souvent les femmes ne perdent pas travaillant dans les secteurs du nettoyage où l'emploi est plus stable, le facteur religieux devient un facteur déterminant pour les hommes pour retrouver une dignité au sein de leur famille et de leur milieu. Faute d'être un bon travailleur qui rapporte beaucoup d'argent, ils retrouveront un statut en étant un bon musulman. Donc le facteur d'organisation de l'islam en Belgique sera pour une part au départ conditionné par ces conditions historiques du développement de la première immigration de travail musulmane. Cette immigration de travail connaîtra un coup d'arrêt en 1974 lorsque le gouvernement prendra la décision, suite à la crise pétrolière de 1973, d'arrêter toute forme d'immigration de travail. Après cette période, le développement de la population musulmane chez nous se diversifiera davantage. On connaîtra encore des formes de regroupement familial pour ceux qui sont déjà sur le territoire belge. Il y aura un développement par mariage, un développement aussi par des migrations intra-européennes, par exemple les Pakistanais de Grande-Bretagne, qui vont s'installer dans différents pays, dont la Belgique, ou des personnes fuyant des situations politiques ou économiques difficiles, l'Afghanistan, le Pakistan, les ex-pays soviétiques ou l'Afrique subsaharienne, et enfin il y a tout le phénomène aussi des migrations plus clandestines. Donc, si dans un premier temps, la population musulmane en Belgique est une population assez homogène, deux composantes, disons une composante marocaine et une composante turque, dans les années 80, elle va se diversifier bien davantage, puisque l'immigration de travail est arrêtée et que d'autres facteurs conduisent à une poursuite de migration pour des raisons politiques, humanitaires ou économiques. Ces différents moments de l'histoire migratoire montrent que les communautés musulmanes en Europe ne présentent pas un profil unifié. Elles sont stratifiées en fonction d'une histoire propre, d'une histoire en lien avec une immigration de travail ou une migration pour d'autres raisons. La durée de séjour d'installation en Europe marque aussi évidemment la façon de se représenter et de se projeter dans la société. La question de l'équilibre entre les générations va se poser de façon très nette aussi. Vous imaginez assez facilement, quand je vous décrivais ce premier islam des pères de famille qui doivent compenser la perte d'un statut social par la perte du travail, mais c'est un mode d'appartenance religieuse dans lequel finalement la génération suivante aura bien du mal à se reconnaître. Donc les différences de génération seront marquantes aussi dans l'organisation des communautés musulmanes ici. Et cette diversité va incontestablement continuer à augmenter dans la mesure où la mondialisation des relations continue et continuera à engendrer des mouvements migratoires importants de tous les peuples sur notre petite planète. Donc tout le monde voyage et voyagera et s'installera de plus en plus un peu partout. Donc pour la Belgique, une présence musulmane ancrée dans une histoire de migration, mais qui s'est largement ouverte à des réalités beaucoup plus vastes par les mouvements ultérieurs. Cette réalité, que représente-t-elle si on essaie de la quantifier, hein, pour la région bruxelloise? On considère en général que c'est de l'ordre de 250 000 personnes, donc entre 20 et 25% de la population. Et tandis que c'est pour la Belgique, hein. C'est pour la Belgique. Et... 250 000 pour la région bruxelloise et 120 000 pour la Wallonie et 650 000 pour l'ensemble de la Belgique. Donc l'ordre de grandeur montre une réalité qui est à la fois minoritaire mais qui est en même temps significative. Sous l'angle des migrations, ben, on voit cette diversité et les traits propres qui vont marquer les différentes composantes de la population qui se revendique de confession musulmane. Maintenant, je voudrais, en arrière-fond historique, essayer aussi de tracer quelques traits sous l'angle de la présence religieuse. Les choses vont évoluer suivant les périodes et suivant les groupes concernés. Comme je vous le disais, au moment de l'immigration de travailleurs, la composante religieuse de l'identité des personnes n'est guère mise en avant, ni par la Belgique qui accueille, ni par les travailleurs qui viennent travailler. Ils ne se présentent pas, ils ne se manifestent pas en fonction de leur identité religieuse, mais bien en fonction de leur identité de travailleur. C'est à partir de la moitié des années 70 que, à la fois le changement d'horizon migratoire, c'est-à-dire la fermeture des frontières, le fait que les familles se développent, que des enfants grandissent, que des questions nouvelles se posent en matière de socialisation religieuse des enfants, etc., mais aussi, comme je vous le disais, avec l'émergence d'un chômage structurel plus important. Ces éléments-là, combinés avec le réveil de l'islam au niveau international, tracent un nouveau paysage, une identité religieuse plus explicitée, le développement d'infrastructures pour transmettre quelque chose aux enfants, l'émergence de mouvements qui tentent de compenser en termes religieux la perte d'identité liée à la crise socio-économique. Si on prend la période entre 1970 et 1981, la population originaire de pays musulmans en Belgique s'est multipliée par 2,8, tandis que le nombre de mosquées s'est multiplié par 10. Donc on voit bien qu'à cette période-là, on a un développement important de petites structures, parce que quand je parle de mosquée, c'est parfois simplement une petite salle de prière dans un garage, etc. Enfin, il y a des petites infrastructures qui se développent beaucoup plus rapidement dans ces périodes-là que ne se développe la population musulmane. Un autre élément dont il faut tenir compte et qui est propre à la Belgique et inégalable sous aucun autre climat, c'est la question de la reconnaissance du temporel du culte islamique en Belgique. Vous savez que, pour les Belges c'est évident, mais pour ceux qui sont d'ailleurs, donc la Belgique est un pays non confessionnel, mais qui reconnaît néanmoins le temporel du culte, de certains cultes, qui n'en sont pas pour autant des religions officielles, mais qui bénéficient d'un certain nombre d'avantages, hein, qui vont du paiement des ministres du culte, à un certain financement des lieux de culte, aux finances, à l'organisation de cours de religion au sein de l'enseignement public, ou les aumôneries dans les institutions pénitentiaires ou hospitalières. Donc, en 1974, une loi du 19 juillet porte la reconnaissance du culte islamique en Belgique. 74, c'est évidemment juste après le grand choc pétrolier de 73, où la Belgique est très soucieuse de s'assurer de son approvisionnement pétrolier, et l'Arabie saoudite est un grand fournisseur de pétrole, et c'est donc elle qui sera le partenaire privilégié de l'État à ce moment-là, pour dans le cadre de du vote de cette loi, alors que ce n'était pas la communauté musulmane la plus nombreuse en Belgique en 74, ni plus, pas plus que maintenant. Mais le vote de cette loi a conduit à une question nouvelle, qui est la question d'un organe représentatif, chargé de représenter la communauté musulmane dans les relations avec l'État. Et cette question va marquer sensiblement la vie de la communauté musulmane en Belgique, et pour tout dire, va l'empoisonner. Parce que, mais finalement, la structure de la loi est calquée sur la reconnaissance d'autres cultes, dont le modèle est l'Église catholique, et donc, en caricaturant un petit peu, on pourrait dire que l'État belge a cherché pendant bien longtemps les évêques musulmans pour avoir ses interlocuteurs. Et donc l'islam devait essayer de se constituer un organe chef de culte pour avoir un interlocuteur de l'État. Et comme nous avons eu l'occasion de le voir, l'islam est fondamentalement une religion sans clergé. Donc personne ne peut se revendiquer chef de culte. Et donc les musulmans se sont beaucoup concertés, parfois même disputés, pour savoir d'abord l'opportunité de répondre au cadre législatif, mais qui présente évidemment des intérêts importants en termes de financement public du culte, mais aussi sur les difficultés d'organiser cet organe chef de culte. Je n'entre pas dans les détails des péripéties qui ont conduit à l'exécutif actuel, qui fonctionne un petit peu avec une reconnaissance relative de la part des musulmans de Belgique, et qui donc c'est une organisation qui reste encore fort imparfaite, mais c'est incontestablement depuis le vote de la loi en 74 jusque vraiment dans les années 90, une question qui aura été très très présente dans les débats autour de l'islam en Belgique et au sein même de la communauté musulmane, et qui, à mon sens, n'aura vraiment pas favorisé les relations et l'organisation de la communauté musulmane, en introduisant des rivalités qui n'étaient pas nécessaires d'introduire. Autre trait au niveau religieux qui marquera, disons, des années 85 à 95, c'est une forme de repli sur soi à l'intérieur de la mosquée. Dans ces années-là, l'islam n'est pas très présent dans l'espace public, il y a trop de tensions et pas de leader capable de répondre aux défis posés par l'extérieur, et cela contribue dans le même temps à une certaine consolidation des structures qui avaient été mises en place auparavant, des petites structures de mosquées de quartier que l'on voit dans ces années-là se reconstruire, se développer, avoir une infrastructure un peu meilleure. Et à partir de la moitié des années 90, on assiste à des phénomènes nouveaux. Le développement de nouvelles infrastructures religieuses indépendantes des mosquées. Et là, c'est un élément qui est assez intéressant parce qu'il met mettra en évidence aussi la difficulté de la transition générationnelle. Les mosquées fondées par les pères, les fils ne s'y retrouveront pas tellement et seront tentés de développer de nouvelles structures religieuses hors mosquées et autre chose que des mosquées. Mais ce qui conduit un petit peu aussi à un éclatement de dimensions cultuelles avec d'autres dimensions de formation, de conférences, de services éventuellement, etc. On voit également au cours de ces années apparaître un nouveau leadership composé d'acteurs nouveaux que Felice d'Aceto appelle les beaux-fils, c'est-à-dire de ces personnes qui arrivent ici pour épouser des musulmanes belges. Et ça conduit à un nouveau leadership dans la mesure où on en est à la génération suivante de jeunes femmes qui ont étudié en Belgique et qui sont souvent bien formées et qui donc épousent des gens plus formés aussi. Et donc il y a un nouveau leadership qui arrive par mariage d'une part, mais aussi à travers des étudiants et à travers des réfugiés. L'islam qui émerge là dans la deuxième moitié des années 90 est un islam de connaissance qui est en rupture avec l'islam des parents. L'islam des parents était fort marqué par les traditions locales d'où l'on venait. Si l'on prend, c'est très, très frappant en particulier je trouve pour la Turquie, pratiquement tous les musulmans de Turquie qui sont en Belgique proviennent des Mirda et de quelques petits villages autour, parce que la Belgique avait son bureau de recrutement à Mirda. Et donc, les Turcs musulmans de Belgique sont dès lors convaincus qu'Mirda est le centre du monde et que l'islam des Mirda est l'islam de l'univers entier, puisque tous les Turcs de Belgique pratiquent les mêmes traditions populaires. Donc au départ, l'islam des pères est un islam marqué par davantage la tradition, tandis que maintenant apparaît un islam davantage marqué par une démarche intellectuelle, soucieuse aussi de relations entre musulmans et non-musulmans. Et les attentats du 11 septembre 2001 ont rendu plus évidente que jamais, évidemment, la nécessité de penser une nouvelle phase des relations islam-occident dans un espace pluriel. Donc, quand on prend à la fois cet arrière-fond historique sous l'angle des migrations et sous l'angle de la présence religieuse, on peut relever quelques grands défis qui se posent à l'islam belge et européen également, puisque même si les contextes ont été différents, que les mêmes enjeux peuvent être vécus. Il y a d'abord tout ce qui tourne autour de la fracture sociale interne aux populations musulmanes. Comme dans toute migration, il y a une forte fracture sociale qui s'installe après une génération, avec d'une part ceux qui ont réussi et qui ont en général très bien réussi, et d'autre part, ceux qui n'ont pas réussi et qui ont plutôt dégringolé. Donc il y a une fracture sociale qui s'installe et la mosquée alors devient un lieu d'action sociale également, avec toute la question aussi de pouvoir se reconnaître dans cette diversité sociale. Fracture sociale interne aux populations musulmanes. Le défi de transition de génération à travers les lieux institutionnels, les mosquées, je le signalais déjà, et aussi le rapport homme-femme, où les femmes présentes ont souvent un rôle subalterne, alors que pour la génération suivante, c'est quelque chose qui est évidemment nettement moins évident pour les femmes qui ont grandi, qui sont nées, qui ont grandi, qui ont été formées ici. Un autre défi qui traverse l'organisation de l'islam en Belgique et en Europe est celui de pouvoir dépasser une organisation ethno-nationale. Si on regarde les mosquées à Bruxelles, on constatera qu'elles sont très marquées au niveau ethno-national. Hein, il y a des mosquées marocaines, il y a des mosquées turques, il y a des mosquées pakistanaises, etc. etc. Ce n'est pas l'appartenance religieuse qui semble fonder la communauté, mais ça semble encore être fort l'appartenance ethno-nationale. Il est évident que dans un processus d'intégration, d'installation et de structuration d'un islam plus européen, plus belge, mais cet élément d'appartenance nationale ne disparaîtra pas, mais ne pourra sans doute pas rester aussi dominant qu'il l'est maintenant, au risque autrement de constituer de petits ghettos hein, qui ne favoriseront pas un développement réel. La solidarité ethno-nationale semble aujourd'hui encore plus forte que la solidarité intra-religieuse. Les mouvements de conversion conduisent peut-être à le relativiser un petit peu, mais cela reste encore dominant. Il y aura toute la question du rôle des États d'origine à l'intérieur de la réalité musulmane belge. Comment la prendre en compte, la négocier et pouvoir ne pas s'y soumettre, mais que ce soit de réels partenaires. Comme je le disais, une appartenance religieuse génère nécessairement des solidarités transnationales. On ne pourrait pas reprocher aux catholiques d'avoir des relations avec le Vatican, qui est aussi une puissance étrangère. Mais c'est un élément qui doit pouvoir être pris en compte de façon saine et bien pensée. Tout le défi de l'islam dans la cité, des constructions des relations entre musulmans et non-musulmans, de la citoyenneté, d'une co-inclusion réciproque, pour reprendre le terme que Felice D'Aceto utilise beaucoup, c'est l'enjeu d'une participation plus intense au devenir collectif, éviter le communautarisme, mais se sentir vraiment partie prenante d'un projet commun de société. L'enjeu de l'autorité morale dans la communauté musulmane, les préoccupations de type organisationnel ont été très absorbantes, tous les débats autour de l'exécutif des musulmans de Belgique ont pris beaucoup d'énergie. On s'est fort focalisé sur des questions culturelles ou de morale. Mais est-ce que une parole qui rejoint les aspirations spirituelles et qui a une certaine autorité morale a sa place et comment pourra-t-elle se développer pour être signifiante pour les musulmans d'ici dans les prochaines années? Et puis, il y a tout l'enjeu du devenir de la pensée musulmane et du leadership intellectuel. Les mouvements de radicalisation que différents courants connaissent aujourd'hui n'encouragent pas l'intelligence et sont plutôt des mouvements assez obscurantistes de ce point de vue-là. La pensée musulmane a un énorme défi à relever au niveau international, mais en Europe aussi, mais pour faire face aux questions réelles qui se posent et ne pas simplement se contenter de tomber dans le rejet et la violence. Cela touche le rapport au texte fondateur, nous avons eu l'occasion de le voir dans les premiers cours, le rapport à la science et toute la question du pluralisme religieux et de la liberté religieuse. Les grandes questions que les traditions monothéistes ont à rencontrer et que l'islam doit affronter sans doute de façon plus aiguë puisqu'il le rencontre de façon plus brutale et plus rapide dans son histoire. Donc une réalité en évolution, une réalité face à de grands défis, une réalité qui, comme toute réalité sociale, hein, va se construire et se construit à travers les relations avec toutes les composantes de la société. Alors je voulais aussi aujourd'hui dire quelques mots sur les enjeux pastoraux, car à travers tous ces événements, à travers la typologie de ces grandes étapes, il y a des hommes et des femmes qui vivent leur foi, issus au départ principalement des milieux populaires des pays d'origine. L'islam qui s'est implanté en Belgique s'est avec le temps fort diversifié. Et c'est à travers toute cette diversité aussi que se sont vécues les premières étapes d'une rencontre islamo-chrétienne. Alors, comme j'en parlais la fois dernière, on peut reprendre les trois grandes catégories de la rencontre interreligieuse, et on peut dire que les trois ont eu l'occasion de se vivre dans ces rencontres concrètes qui se vivent dans les quartiers. Mais d'abord, la dimension de rectitude intellectuelle, d'apprendre à se connaître, à s'apprécier, à savoir ce que l'autre pense, ce qu'il dit de lui-même. Le partage existentiel, par des engagements communs dans les quartiers, dans des enjeux pour la vie des personnes. Et puis l'émulation spirituelle, un certain nombre de groupes ont existé, existent toujours, qui se retrouvent autour d'un partage plus spirituel pour un approfondissement en commun. Mais à côté de ce cadre tout à fait général de la vie concrète dans la ville et dans les quartiers, il y a trois problématiques que je voudrais mentionner en particulier, qui ont un impact plus spécifique pour l'approche que l'Église est amenée à en avoir. Il y a tout d'abord la problématique des mariages mixtes. Une fois que des populations vivent ensemble, il y a, après un certain temps, un certain nombre de mariages qui voient le jour, et donc différents couples dont un partenaire est chrétien et l'autre musulman se forment. Du point de vue musulman traditionnel, un tel mariage est possible si l'homme est musulman. Il est par contre interdit si c'est la femme qui est musulmane. Toutefois, en contexte d'immigration, certaines femmes transgressent cet interdit, au prix souvent d'une rupture pénible avec leur famille et leur milieu. Et parmi ces couples, certains, peu nombreux, mais certains demandent une célébration chrétienne de leur mariage. Du point de vue de l'Église catholique, cette situation n'est qu'un cas particulier de mariage entre catholiques et non-baptisés, qui requiert simplement une dispense de l'ordinaire du lieu, qui se base sur deux conditions, à savoir que les deux partenaires soient d'accord sur les éléments fondamentaux du mariage chrétien, à savoir que c'est un mariage monogame pour la vie et ouvert à l'accueil d'enfants, et que d'autre part, les enfants puissent être au moins ouverts, si pas initiés, à la foi chrétienne, que la foi chrétienne ait une place dans la vie de la famille. Par rapport à cette problématique, d'un diocèse à l'autre, les attitudes sont différentes. De l'octroi systématique au refus systématique, la position la plus intéressante étant celle où un discernement rigoureux est opérer avec chaque couple en prenant réellement en compte la situation de chacun des partenaires. Et cela peut se faire, comme dans notre diocèse, par la nomination de consulteurs qui sont spécialisés dans cette problématique et qui sont des rencontres très intéressantes qui permettent aussi d'éviter de très gros malentendus, parfois, de bonne foi, entre les couples. Le plus caricatural, mais que j'ai quand même rencontré une fois, c'était un musulman des Émirats, je pense, des Émirats arabes, qui voulait épouser une Italienne, si je me rappelle bien, Et très rapidement, je touche alors à la question des éléments fondamentaux de la conception chrétienne du mariage, à savoir que c'est un mariage monogame pour la vie ouvert à l'accueil d'enfants. Et lui, d'emblée, indique que c'était vraiment pas son projet, ni monogame, ni pour la vie. Tandis que sa promise avait bien ce projet-là avec lui. Et il ne s'était jamais rendu compte, à cause de la différence culturelle, que derrière le mot mariage, il mettait des réalités très très différentes, de bonne foi. Hein, donc l'entrevue s'est terminée dans les larmes, mais s'est terminée là. Ce rôle de discernement par rapport à des malentendus, hein, il n'était pas de mauvaise foi, est évidemment important. Les couples qui, en général, demandent à l'Église de pouvoir célébrer chrétiennement leur mariage sont des couples qui souhaitent fonder une famille réellement mixte, c'est-à-dire qui tiennent vraiment compte des deux traditions religieuses. Mais la difficulté, évidemment, se pose pour les enfants. Seront-ils baptisés ou musulmans ? De façon théorique, la question est biaisée dans le sens où pour devenir chrétien, il y a toujours une démarche positive à faire, le baptême. Hein, un enfant qui naît de deux parents chrétiens n'est pas chrétien. Il devient chrétien par le baptême. Tandis que l'on est musulman par naissance d'un père musulman. Donc, lorsque le couple dit qu'il souhaite laisser le choix à l'enfant, si c'est le père qui est musulman, bien, ça suppose une capacité d'une certaine prise de distance par rapport à un donné traditionnel qui est quand même très prégnant dans la conscience et l'identité musulmane, à savoir que l'on est musulman par naissance d'un père musulman ou alors par conversion à l'âge adulte. Il y a d'autres aspects aussi qui méritent d'être examinés, évidemment, dans ces cas-là. C'est toutes les questions relatives à la vie plus quotidienne, hein, au fait que l'on célébrera, au type d'alimentation que l'on aura. Maintenant, je crois que c'est devenu assez simple de manger halal un peu partout en région bruxelloise, mais il y a 10 ou 15 ans, si vous habitiez Woluwe et que vous deviez trouver de la viande halal, ça supposait de faire un bon bout de chemin pour faire vos courses. Ces questions-là avaient un retentissement évidemment important sur la vie des familles aussi et sur le discernement à avoir. Première problématique donc, qui requiert de la part de l'Église un souci et une attention pastorale aiguisé hein, pour que ce soit à la mesure de la charité dont nous devons être témoins, c'est cette problématique des mariages mixtes, problématique évidemment très limitée. Hein, le nombre de couples islamo-chrétiens qui demandent une célébration à l'Église est très peu important par rapport à la proportion de couples islamo-chrétiens qui se forment dans la société. Hein. Une deuxième problématique, également marginale, peu nombreuse en nombre, mais qui est présente chaque année en légère augmentation, c'est toute la question des demandes de baptême de la part de personnes d'origine musulmane. Il arrive que des personnes d'origine musulmane fassent la demande de recevoir le baptême et d'entrer dans la communauté chrétienne. Alors, une telle demande doit évidemment être reçu positivement, mais dans le même temps avec beaucoup de discernement. Un accompagnement spécifique et particulièrement long me semble devoir être prévu de 2 à 5 ans, parce qu'il y a vraiment tout un déplacement humain et spirituel à faire lorsque l'on a été structuré humainement et spirituellement dans la tradition musulmane. Je crois que le cours a permis de voir vraiment les différences de cohérence religieuse. Hein, on passe vraiment d'un univers à un autre, d'un type d'expérience religieuse à un autre type d'expérience religieuse. Et il faut que la personne puisse vraiment prendre la mesure du chemin à parcourir et évaluer en toute liberté si c'est bien ce chemin-là qu'elle souhaite parcourir. Donc je pense que le temps, là, est un élément important. Une réponse positive, précipitée à la demande peut conduire vraiment, après quelques années, à de véritables catastrophes humaines, de gens qui tombent dans des dépressions, dans de l'alcoolisme, je pense, hein, qui s'est suicidé, etc. Enfin, c'est vraiment des catastrophes s'il n'y a pas un accompagnement suffisamment long et précis qui est fait. Un point auquel il convient d'être particulièrement attentif est le rôle et la place de la communauté. En islam, la communauté est très prégnante et porteuse. Hein, le mot la umma, hein, la communauté, c'est la même racine que la mère. Hein, donc c'est la mère qui nous rassemble et qui nous tient unis. C'est quelque chose de très fort, cette appartenance à la umma. Et il est clair que l'apostasie, le rejet de l'islam pour embrasser le christianisme, est traditionnellement passible en droit de mort, mais dans nos pays, il est passible d'une mort sociale bien réelle. Hein, la personne se trouvera entièrement rejetée, reniée par tout son entourage musulman. Et cette mort sociale peut être terriblement lourde à porter, d'autant plus qu'en Occident, nos églises n'ont pas cette dimension communautaire forte que la Oumma musulmane présente. Le mot communauté à propos de nos assemblées d'églises est d'ailleurs quelque peu abusif dans la plupart des cas. Hein, donc, nos réalités d'église sont plutôt des assemblées assez individualistes, plus ou moins racistes, et enfin, je ne vais pas continuer la description, mais donc l'accueil réellement d'une personne qui viendrait du monde de l'islam n'est pas évident en termes de tissu communautaire. Et plus fondamentalement, il faut bien mesurer qu'une perception réelle de ce qui fait le cœur de la foi chrétienne suppose ce cheminement long, parce qu'on passe du caractère raisonnable et naturel, disons, de la foi musulmane, à la folie de la croix, ce qui est un renversement complet de l'attitude religieuse, qui touche au plus profond de la personne. Donc le respect dû à la personne humaine, image de Dieu, nécessite vraiment la plus grande vigilance pour ne pas lui faire violence lorsqu'il y a une demande de baptême de la part de quelqu'un qui vient du monde musulman. Un élément auquel il faut aussi être vigilant, c'est que c'est une demande qui provient parfois de personnes qui pensent que cela permet de régulariser une situation de séjour en Belgique. Ce n'est en droit des étrangers pas vrai, et ce n'est pas une motivation non plus suffisante. Dans ces cas-là, moi je réponds toujours qu'on envisagera le début du cheminement quand la situation administrative sera régularisée pour que la personne soit suffisamment sécurisée pour pouvoir entreprendre une démarche importante qu'on n'entreprend pas à un moment où on se sent insécurisé. Et alors un troisième point qui a pris pas mal d'énergie et qui continue à en prendre en Belgique au niveau des relations islamo-chrétiennes du point de vue de l'Église, c'est toute la problématique scolaire. Là, c'est aussi une situation tout à fait spécifique à la Belgique, puisque donc vous savez qu'on a deux réseaux d'enseignement, enfin un peu plus, mais enfin sommairement, donc il y a un enseignement plutôt public et l'enseignement catholique. Les différents réseaux d'enseignement public sont tenus d'organiser les cours religieux ou philosophique des cultes reconnus demandés par les parents, tandis que l'enseignement catholique est tenu d'organiser uniquement le cours de religion catholique. Il se fait que l'enseignement catholique en Belgique couvre un peu plus de la moitié de la population scolaire et que dès lors, il y a dans les écoles catholiques un très grand nombre d'enfants et de jeunes musulmans qui soit y sont par facilité, parce que c'est l'école du quartier, ou soit y sont par choix, pour ne pas être dans une école sans Dieu, disent parfois certaines familles, hein, dans une école de croyants, ou pour la réputation de l'enseignement catholique. Mais cela conduit donc les enseignants, et il y en a parmi nous, hein, à des situations un peu paradoxales, de devoir organiser un cours de religion catholique pour un public qui est parfois majoritairement musulman dans la classe. Et donc c'est un secteur qui a été un fort travaillé aussi dans les relations islamo-chrétiennes pour pouvoir produire des matériaux pédagogiques par rapport à ces situations particulières qui à la fois respectent les enfants qui sont présents dans la classe tout en les aidant à grandir dans leur propre foi et en les ouvrant à au moins une connaissance de la foi chrétienne. Voilà trois grands secteurs qui nécessitent une vigilance particulière de l'Église hein, dans les relations islamo-chrétiennes complètes. Je vois que le temps est déjà passé, donc quelques balises hein, que j'ai proposé, donc bien voir la nouveauté historique et le côté d'invention nécessaire tant pour la composante musulmane que pour la composante occidentale chrétienne, voir l'enracinement dans des processus migratoires, des développements religieux qui les ont accompagnés, et puis quelques questions particulières qui illustre la réalité du propos et la vigilance qu'il y a à avoir pour que nos rencontres soient à la mesure des défis qui sont posés. Bonne soirée.